Les héroïnes, une heure avec des meufs.
Il y a quelque chose qui nous lie, nous vivons toutes les deux la nuit. Nous sommes nés sur les mêmes terres, encore plus à l'ouest que l'enfer. Jamais je ne te l'ai dit, je pense que la mélancolie qui coule dans ton sang et le mien est issue de ce foutu sein.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Morgane, bienvenue dans Les héroïnes, nouvelle saison. Papa, est-ce que tu m'entends ? Devine qui va dormir en prison. Le petit Nicolas. Papa, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 5 ans de prison ferme. Voilà, c'était mon message personnel pour entamer cette émission. Voilà, l'info est tombée hier et Marine, on se réjouit.
Mais oui, c'est une très bonne nouvelle.
Et vous l'aurez compris, donc Marine Combe est avec moi aujourd'hui en plateau. Marine Combe, rédactrice en chef du magazine féministe rennais YEG, qu'on peut lire sur yegmag.fr. Marine, est-ce que vous vous rappelez où nous étions il y a 10 ans ?
Oh, non.
Non ?
Ici, peut-être.
Ouais, c'est ça. Gagné. Eh bien, oui, c'est ça. Nous étions ici même. C'était la première fois sous l'impulsion de Ronan Lemouer qui trouvait qu'on n'entendait pas assez de voix féminines à l'antenne de Canal B. Je ne sais pas si ça a trop changé. Alors à l'époque, ça s'appelait pas les héroïnes, mais Madame B. Il y avait à nos côtés Violaine, Patricia, Lydie, entre autres. Et puis il y a eu Léa et l'émission est devenue les héroïnes. Robert est sous la rue, une heure avec des meufs. Il y a eu aussi Aurélia Descordés-Gonzalez, Célène Tonon, Emma Baudouin, Suzanne Joly, qu'on embrasse toutes parmi nos héroïnes. Voilà, ça fait donc 10 ans qu'on est à l'antenne, Marine, et j'avais envie de le dire pour débuter cette nouvelle saison.
Carrément, ça fait plaisir.
Ouais. Alors, en même temps, ça fait plaisir, on pourrait se dire, 10 ans qu'on se bat pour les droits des femmes,
oui.
Il serait temps que tout ça s'arrête, qu'on n'ait pas besoin de...
Que ça avance, ça avance, ça avance.
Oui, ça avance bien sûr en 10 ans, il y en a eu des avancées. Alors, on n'a pas d'invité pour cette première émission de la saison. Rebecca Warrior n'est pas dispo. Trop de promos autour de son livre, dont pour autant, je vous recommande vivement la lecture. Donc, pas d'invité, mais beaucoup de chiffres. Beaucoup, beaucoup de chiffres. Allez, je commence tout de suite. Figurez-vous que fin août, la prestigieuse revue Science a consacré 5 pages à l'endométriose. 190 millions de femmes en âge de procréer sont touchées à travers le monde. Pourtant, la maladie est toujours sous-diagnostiquée puisqu'il faut en moyenne 7 ans d'errance médicale et elle est sous-financée. Les traitements actuels visent surtout à soulager la douleur sans agir sur les causes profondes. Alors ces dernières années, heureusement, la recherche s'accélère. On aurait identifié le rôle du système immunitaire qui serait donc la base de cette maladie qui contribuerait à l'inflammation et à la survie des lésions de l'endométriose. Alors l'histoire de la chercheuse et patiente Cathy Burns vient illustrer l'article de Science en vraiment en montrant bien la souffrance et le désespoir de ces femmes atteintes d'endométriose. Donc 5 pages sur l'endométriose dans Science. Et pendant ce temps-là, en France, que se passe-t-il ? Marine, je vous le donne en mille, un homme doit intervenir le 16 octobre prochain lors de la formation « Diagnostic précoce et prise en charge de l'endométriose » organisée par Rambam France. Je ne connaissais pas Rambam France, je suis allée me renseigner. C'est la Fédération des associations des professions de santé juives de France. Et cet homme qui vient donc participer à la formation sur l'endométriose n'est autre que Émile Daraille, gynécologue aux 36 plaintes, 32 mises en examen au pénal et plus de 200 témoignages de violence.
La vache.
Ouais. Viol sur mineur, viol en réunion, des faits requalifiés en violence volontaire par personne chargée d'une mission de service public. Et là, Marine, voyez-vous, je pense à toutes ces carrières brisées. C'est terrible. On en brise tellement des carrières quand on dénonce des viols. C'est un peu comme PPDA. On n'en entend plus parler. Alors, je vais faire un petit rappel quand même, parce que l'affaire PPDA, ce sont plus de 50 femmes qui ont dénoncé du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles, des viols. Ce sont 29 plaintes déposées, dont 16 pour viol, 9 pour agression sexuelle et 4 pour harcèlement sexuel. Et que se passe-t-il ? En fait, pas grand-chose, hein, puisque le supposé prédateur sexuel a été placé sous le statut de témoin assisté et mis en examen pour viol depuis bientôt 2 ans, que l'instruction est en cours depuis bientôt 4 ans. La première plainte pour viol contre lui a été déposée en 2005 et PPDA profite tranquillement de sa retraite, sans doute à quelques kilomètres là, dans les Côtes d'Armor. Et là encore, je pense à toutes ces carrières brisées, ces vies de prédateurs sexuels anéantis. C'est vraiment terrible.
Solo si es si, hermana, yo sí te creo.
Car en France, en fait, on continue de protéger les prédateurs et les assassins. J'en veux pour preuve que nous sommes seulement à 27 féminicides de Noël. Oui. Le 26 septembre, aujourd'hui, 114 femmes ont été assassinées depuis le début de l'année en France. 114 féminicides, soit presque 13 par mois, depuis le début de l'année, plus de 3 par semaine. Parmi ces femmes assassinées, il y a Inès Melsem, 25 ans, poignardée à mort par son ex-conjoint il y a quelques jours. La jeune femme avait déposé plainte et 4 compléments de plainte. On parle même de 5 ou 6 plaintes déposées à l'encontre de son assassin en l'espace de 6 semaines au commissariat de Poitiers. Elle a parlé des viols subis, des étranglements, de la violence. On lui avait fourni un téléphone grand danger cet été, en vain. Son assassin, lui, n'a jamais été équipé d'un bracelet anti-rapprochement, jamais placé en garde à vue. Et il a assassiné Inès, il a massacré Inès. La mère d'Inès a porté plainte pour non-assistance à personne en danger contre la police de Poitiers. Le parquet a saisi l'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la justice doit faire la lumière sur ce drame. Le cas d'Inès Meslem, il n'est pas isolé, ça on le sait nous ici à Marine, malheureusement, car c'est un quart des victimes de féminicides qui portent plainte avant d'être assassinées, qui ne sont donc pas protégées par la police et la justice. Pire, il est question d'une impunité massive pour les agresseurs et les violeurs. Alors, toujours, c'est pas nous qui l'affirmons, ce sont 2 rapports très récents qui font ce constat accablant. C'est d'abord celui du Haut Conseil à l'égalité qui est sorti là mercredi, le 24 septembre, et dont je vous laisserai bien sûr le lien pour aller le lire sur le blog des héroïnes. Et c'est également le rapport du Grevio. Le Grevio, c'est l'organe de veille du Conseil de l'Europe sur les VSS, violences sexistes et sexuelles. Et pareil, je vous laisserai ce rapport, le lien vers ce rapport sur le blog des héroïnes. Alors le Grevio s'alarme notamment du climat d'impunité généré par la réponse pénale largement insuffisante concernant le viol en France. Voilà, là on arrive aux chiffres. Il y en a une petite série, mais ils sont vraiment parlants et accablants. En France, 153 000 personnes majeures sont victimes de viols chaque année. 93% de ces victimes majeures sont des femmes. 84% des victimes mineures sont des filles. 97% des mis en cause sont des hommes. Mais on n'a pas le droit de dire tous les hommes. Ben 97% des mis en cause sont des hommes. 12,5% des victimes portent plainte. 96% des plaintes pour viol n'aboutissent pas à une condamnation. 94% des plaintes pour viol sont classées sans suite. 83% des violences sexuelles signalées à la justice n'aboutissent donc pas à des poursuites judiciaires. Donc grosse, très grosse, énorme impunité pour les auteurs. En 2023, les chiffres officiels indiquent qu'il y a eu 636 condamnations pour viol, ce qui représente 0,4% des victimes déclarées, 3,3% des plaintes déposées, alors que les viols représentent, eux, 62% des crimes jugés en France. Et accrochez-vous, alors là, moi, je suis tombée de ma chaise. Les homicides, eux, ne représentent que 25% et le terrorisme 0,7%. Alors, que préconise notamment le Grévio? Alors, il préconise ce que d'autres avant lui ont déjà recommandé hein, depuis plusieurs années, c'est renforcer la réponse pénale et la formation des acteurs, policiers, avocats, juges. Ça, on l'attend toujours. Améliorer l'accueil et l'accompagnement des victimes en justice. Augmenter les moyens financiers et garantir un financement stable pour les associations qui viennent en aide aux victimes. Et on verra dans quelques instants que c'est loin d'être le cas en France ces derniers mois. Le Grévio préconise aussi une politique harmonieuse avec un pilotage interministériel et non des mesurettes à droite à gauche sans cohérence, sans lien, comme c'est le cas aujourd'hui en France où on a des demi-mesures sans cohérence. De la prévention dès l'école pour lutter contre la culture du viol et les violences lutter contre la culture du viol et les violences, soit la mise en œuvre en fait de la loi de 2001 sur l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et enfin, une protection renforcée des enfants et des femmes grâce notamment au soutien durable aux associations qui les soutiennent. Et j'y viens. Parce que se passe-t-il en France, Marine? Je vous le donne en mille. Ça sera le gimmick de la journée. Eh ben, en fait, on l'a déjà évoqué ici au printemps, quand on s'est fait le relais de l'alerte sur la situation financière des CIDEF, qui sont les centres d'information sur les droits des femmes et des familles. La situation s'est aggravée. C'est notamment la Fondation des femmes qui tire le signal d'alarme depuis plusieurs semaines. La baisse des subventions versées aux associations d'aide aux femmes s'ajoute à cela les subventions qui n'ont pas été versées, qui ont été accordées et qui ont pris plusieurs mois de retard. C'est 64% au total des subventions. Et puis, bien sûr, les coupes budgétaires. Eh ben, tout ça atteint dangereusement les trésoreries de ces structures, alors qu'inversement, les femmes sont de plus en plus nombreuses à demander de l'aide. Alors, conséquence, ben, bien sûr, il y a moins de permanence, notamment juridique, moins de solutions proposées, moins de conseils, moins de moyens disponibles pour la sensibilisation aux violences faites aux femmes. Au total, Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des femmes, parle de 6,5 millions d'euros en moins, soit 6 000 femmes environ qui pourraient être aidées et qui ne le sont pas. Voilà. Sympa.
Tax Zuckman. Voilà.
Monsieur,
on glisse ça là.
Monsieur Arnaud, vous voulez pas financer les associations qui viennent en aide aux femmes, hein, comme vous avez financé Notre-Dame de Paris? C'est un appel aussi, tu veux
voilà.
dire. Voilà. J'espère
ça
que
ça pourrait fonctionner.
Mais je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée. It's Britney, bitch.
Marine, chers auditeurices, après ces quelques bonnes nouvelles, je vous propose une première pause musicale. Alors, parallèlement à la parution de son livre le 20 août dernier, Toutes les vies, dont je vous conseille la lecture, Rebecca Warrior a sorti un titre quelques jours plus tard pour accompagner son premier roman, titre éponyme, Toutes les vies. On écoute ça tout de suite.
Mon ciel est bleu, le vôtre est bleu, pas le même bleu.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Canal B dans Les Héroïnes. On vient d'écouter Toutes les vies, un titre de Rebecca Warrior qui accompagne la sortie de son premier roman, Toutes les vies, lequel raconte la perte prématurée et tragique de l'être aimé et l'impossible deuil qui s'ensuit. Marine, ça va être à vous. Vous avez peut-être, chers auditeuristes, déjà oublié son nom, voire même jamais fait attention à celui-ci. Mais ici, chez les héroïnes, il est bien gravé dans nos esprits, Caroline Grandjean Pacou. Marine, c'est avec cette sombre et tragique histoire que vous débutez votre revue de presse.
Oui, elle s'appelait Caroline Grandjean, elle avait 42 ans, elle était enseignante et directrice d'école à Moussage dans le Cantal. Elle subissait du harcèlement lesbophobe depuis septembre 2023 et le jour de la rentrée 2025, elle s'est suicidée. Sur les murs de son établissement, elle retrouvait des messages inscrits hein, tels que « sale gouine » ou encore « gouine égale pédophile ». Mais également, elle recevait sur son lieu de travail des lettres d'insultes et de menaces. Donc 2 ans d'enfer, 2 ans d'épisodes dépressifs et d'arrêt maladie, 2 ans de silence et de rien de la part de l'institution pour laquelle elle travaillait. Pour son épouse, Christine Pacou, le combat ne doit pas cesser, ni contre la lesbophobie qui en 2025 tue encore des femmes et détruit de nombreuses vie, ni contre l'éducation nationale qui savait, mais n'a rien fait pour venir en aide à Caroline Grandjean. Alors sa veuve, elle cache pas sa colère, son désarroi et sa détermination à porter plainte contre l'éducation nationale. Elle parle d'acharnement et l'affaire pointe les manquements de l'institution notamment, mais pas que, puisque la société dans son ensemble doit prendre ses responsabilités, condamner fermement les actes lesbophobes et plus largement LGBTI-phobes et déconstruire les mécaniques sexistes qui se trament en deçà de ces agissements qui, rappelons-le, ne sont pas des faits isolés mais bel et bien des violences fréquentes. Selon le rapport 2025 publié par SOS Homophobie, les insultes et menaces concernent 57% des cas de lesbophobie, des actes ordinaires pour la majorité des personnes lesbiennes réduites dans leur rapport au monde, à leur orientation affective et sexuelle, un scandale.
Alors je me permets, je mettrai sur le blog son histoire à Caroline parce qu'elle l'a racontée à un ancien enseignant qui tient le blog Cas d'école et elle lui a raconté tout ce qui se passait. Et je pense que au-delà de l'inertie de l'éducation nationale, on peut dire que son inspectrice lui a posé, une question simple. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que les gens vous en veuillent autant ? J'imagine la violence de cette réflexion quand elle l'a entendu. Et puis la solution, c'est ça a été aussi celle que l'éducation nationale a proposé de la délocaliser, de dire bah allez travailler à 2 heures de chez vous, comme ça voilà on éloigne,
Problème quoi, comme si c'était elle le problème.
Ouais, c'est ça. Marine, vous continuez de dénoncer des dysfonctionnements criants qui malmènent les fans, cette fois c'est dans le milieu artistique.
Exactement, il y a une autre étude à prendre très au sérieux, c'est celle de l'ADAMI, la société civile pour l'administration des droits des artistes et des musiciens interprètes. Tous les 2 ans, la structure scrute et décrypte la place des femmes dans les films et la fiction. Et en 2024, les chiffres sont alarmants puisqu'ils pointent un déséquilibre qui s'accentue lentement, mais sûrement. Seulement 4 rôles sur 10 sont attribués à des femmes, soit un recul de 2 points par rapport à l'année 2022. Alors on note quand même une progression de la part des rôles principaux féminins dans les courts et les longs métrages et une diminution de ces mêmes rôles principaux féminins dans les fictions télévisées. Pour autant, de manière globale, la part des femmes reste faible, ne dépassant jamais les 45%. Et c'est encore pire quand on fait la focale sur la distribution des rôles principaux et secondaires en fonction de la tranche d'âge, parce que si les filles sont majoritaires jusqu'à 39 ans, les pourcentages baissent au passage de la quarantaine. Sans surprise, les carrières des comédiennes ralentissent et baissent drastiquement, ne représentant que 14% des 59 ans, et 10% des plus de 60 ans. Alors pour les hommes aussi, la courbe, elle décline, mais beaucoup plus lentement. Et ce qui en dit long, à mon sens, sur le manque de représentation des femmes dans la fiction audiovisuelle, c'est le visage de Morgane Alvaro, ce personnage central de la série à succès HPI, interprété par Audrey Fleurot, qui s'affiche dans tous les articles qui reprennent le sujet de l'étude. Celle-ci dénonce la baisse des personnages féminins sur les écrans, soulignant au passage la difficulté pour les femmes à percer après 40 ans, et les médias utilisent tous la même image sans se poser de questions, celle d'une actrice qui subit l'injonction à la jeunesse éternelle, incarnant ici, en plus, un personnage stéréotypé et caricatural. C'est dommage.
Ah, les médias, mon Dieu. Vous nous amenez à Albi, à présent, Marine, à la cour d'assises du Tarn.
Ouais, pour une dernière actu peu réjouissante également, celle du procès de Cédric Jubilard qui s'est ouvert en début de semaine, lundi 22 septembre à Albi dans le Tarn. L'homme est accusé d'avoir tué sa femme, Delphine Ossagel, portée disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 et dont le corps n'a depuis pas été retrouvé. France Télévisions propose une mini-série en 7 épisodes intitulée « Affaire Jubilard, anatomie d'une disparition » pour récapituler les éléments de l'enquête qui présentent toutes les caractéristiques d'un féminicide. Lui, un homme au parcours entravé, blessé par les obstacles et difficultés de la vie, freiné dans ses projets par la consommation de cannabis. Et elle, effectivement, hein, lui ou un ouin quand même. Et elle, une femme discrète et taiseuse, infirmière, investie dans la vie familiale et porteuse d'un couple à la dérive. Elle souhaite divorcer, tombe amoureuse d'un autre homme avec qui elle entretient une relation en cachette. Et lui, il l'épie, la suit et cette nuit-là, il déclare sa disparition. Depuis, les langues se délient et dépeignent un homme méprisant envers sa femme et possiblement violent. Ce sont les éléments qu'on retrouve dès les premiers jours du procès qui, espérons-le, participera à faire la lumière sur ce qui est arrivé à Delphine Ossagel entre le 15 et le 16 décembre 2020. Plus les jours passent, malheureusement, moins on a d'espoir que la lumière soit faite sur cette vérité. En tout cas, depuis 5 ans, Cédric Jubilard nie toute responsabilité et intrigue les autorités, les médias et l'opinion publique de par son comportement et sa personnalité. Il a d'ailleurs entamé le procès en scandant qu'il aimait prendre toute la place et donner son avis sur tout. Alors les monstres, ça n'existe pas, dit Adèle Haenel. En effet, c'est la société qui les crée. Mais on y reviendra la prochaine fois avec le documentaire Éduquons nos fils, sorti hier soir sur France 2, et une BD du même nom, Éduquons nos fils, qui a été publiée mercredi dernier.
Je me permets aussi, mais il est vrai que on peut lire dans les médias, les merdias, beaucoup reviennent sur son enfance à lui, voilà, et semblent vouloir expliquer qu'il aurait éventuellement tué sa femme parce que il était impossible pour lui qu'elle le quitte, etc. Enfin, c'est quand même terrible d'être en septembre 2025 et d'entendre toujours la même chose là-dessus et d'expliquer que c'est en lien avec ce qu'il aurait lui-même vécu et subi. Si tous les enfants maltraités devaient être des potentiels assassins, ça serait terrible. Donc bon, bah ça, ouais, c'est aux médias de faire aussi leur travail. Merci beaucoup Marine, vous revenez après cette nouvelle pause musicale sur Canal B dans Les Héroïnes. Alors moi j'avais très envie d'écouter Calvaire de Sexy Sushi. Alors bien sûr vous allez me dire, mais c'est encore Rebecca Warrior, mais je vous répondrai, c'est jamais assez.
C'est vrai, je suis d'accord.
Se dépêcher, poster un recommandé. Urgent, payer plus cher, sinon problème à l'arrivée. Courir au métro, coincé entre les gens. Une mauvaise odeur, un type vulgaire me demande de l'argent. Perdu dans les tunnels, je suis trempé de sueur. Je suis un peu en retard, j'envoie le SMS de rigueur. Digicode, porte blindée, cours à gauche, premier escalier. J'arrive au rendez-vous et me ridiculise d'un coup. Je ressors, j'ai pas mangé, j'ai pas osé dire que j'avais faim. J'ai juste dit non, c'est ok quand il sortait le jambon italien. Du coup, j'ai grave la dalle et puis mon dos me fait souffrir. Et quand je reçois un message, c'est SFR, promo loisir. Il pleut encore, alors je risque le métro. Je me fais choper par un agent qui me réclame 150 euros. J'avais zappé que j'avais dentiste et j'ai fait une tache sur mon polo. J'ai perdu ma to-do list et dans la détresse, j'appelle Théo. Je lui dis de venir à 22h dans un bar ouvert le lundi. Un rat miteux où le jambon beurre est là depuis le samedi. Je commande une bière en attendant mon copain. Je sens que je vais en boire plusieurs, j'en ai vraiment besoin. Il n'y a personne à draguer, il n'y a plus rien à faire. Encore une foutue journée. Calvaire, il n'y a personne à draguer, il n'y a plus rien à faire. Personne à draguer, il n'y a plus rien à faire. recommander si j'y arrive toutefois. Car je suis perdue dans les tunnels et trempée de sueur. Je suis un peu en retard, alors j'envoie le SMS de rigueur. Digicode, porte blindée, cours à gauche, premier escalier. J'arrive au rendez-vous, elle me ridiculise d'un... Quand je ressors, je suis claquée, j'ai pas osé dire que j'avais faim. J'ai pas osé dire non plus que la conversation, je n'entravais rien. Alors j'ai grave la dalle et puis mon dos me fait souffrir. Et quand je reçois un message, CSFR, comme au loisir. Il pleut encore, alors je risque le métro. Je me fais choper par un agent qui me réclame 150 €. J'avais zappé que j'avais kiné et j'ai pas enlevé la tache de mon polo. J'ai perdu un important courrier, dans la détresse j'appelle Théo. Je lui dis de venir à 23 h dans un bar ouvert le mardi. Un rat de miteux où le jambon meurt est là depuis le samedi. Je commande une bière en attendant mon copain. Je sens que je vais en boire plusieurs, j'en ai vraiment besoin. Il n'y a personne à draguer, il n'y a plus rien à faire. Encore une foutue journée.
C'était Sexy Sushi Calvaire sur Canal B dans les Héroïnes. Marine, vous avez pour nous plusieurs recommandations de BD.
Bah ouais, parce qu'en septembre, c'est la rentrée. Et comme chaque année à la rentrée, la littérature est à l'honneur. Et aujourd'hui, j'ai envie de focaliser votre attention sur des bandes dessinées qui parlent de sororité, féminisme, de violence masculine, d'emprise ou encore de déni et de levier d'émancipation. Le premier album, c'est une BD jeunesse, ado plus précisément, et ça s'appelle Le Cercle des Dragones. Et Le Cercle des Dragones, c'est l'ouvrage que les femmes de ma génération, sans dire quelle génération il s'agit, et celles d'avant, auraient aimé avoir et lire. C'est l'ouvrage que les filles des générations aujourd'hui adolescentes et des suivantes ont la chance d'avoir et de pouvoir lire. C'est l'ouvrage de l'espoir et du champ des possibles, celui d'une société dans laquelle la sororité peut se construire et déployer sa puissance dès l'âge charnière de l'adolescence. Ici, elles sont pas en compétition, Héloïse, Peggy, Julie et les autres jeunes filles du lycée Charlemagne qui vont fonder ce fameux cercle des dragones. Elles apprennent à se connaître, à se découvrir, à se valoriser, à s'entraider. Contre les violences masculines, les LGBTI-phobies, mais aussi les difficultés et épreuves de la vie, comme la maladie d'un parent par exemple. Elles se soutiennent. Malgré les obstacles, les maladresses, voire les conflits provoqués par l'ignorance et le rejet en première instance, elles surmontent ensemble les jugements et dépassent les injonctions et normes de genre. Elles sont réalistes, plurielles, humaines, hétéro, trans, lesbiennes, timides, exubérantes, badass, racisées et blanches, et elles nous embarquent dans leur amitié bienveillante et solide, dans un lien qu'elles vont construire au fur et à mesure, qu'elles vont nourrir de réflexions, d'expériences et d'erreurs, et qu'elles vont entretenir pour que les individualités puissent s'exprimer et vivre librement au cœur du collectif. C'est sensible, drôle, émouvant et puissant. Cette œuvre, on la doit à Ingrid Chabert et June, qui la publie aux éditions Jungle. Et cette œuvre, elle est essentielle et indispensable pour les jeunes générations, comme les moins jeunes évidemment, pour qu'elles puissent tisser des relations basées sur l'écoute, le dialogue, la bienveillance et la solidarité, afin de comprendre les autres et d'envisager les autres aussi dans leur globalité, complexité, et en finir avec la notion un peu dérisoire et néfaste d'acceptation, de tolérance et de compétition. Ici, on respire, on sourit, on pleure, on s'énerve, on envoie valser le patriarcat et on s'unit pour des luttes plurielles et communes. C'est quand même chouette.
Ça fait du bien.
Exactement. Il y a un autre album inspirant, c'est celui de Bénédicte Moret et Anne Schmo. Je ne sais pas si j'écorche, donc je m'en excuse. Sur les rouages de l'emprise dans la relation amoureuse hétéro. La BD, elle s'intitule Amour toxique. Elle est parue en juin dernier aux éditions Le Lombard. Et elle rejoint la catégorie des ouvrages anthropomorphiques, mettant en illustration la renarde Mani, fraîchement diplômée des Beaux-Arts et tatoueuse en devenir. Et le panda, Fredo, un brillant professeur de philo qui prend beaucoup de place. On assiste à leur rencontre et on suit le fil de leur relation qui provoque d'entrée de jeu le vertige du déséquilibre qui règne au sein de leur couple. Elle l'admire, il l'écrase. Classique, hélas. Mais là où la BD tire son épingle du jeu, c'est sur ce travail de tout ce qui va paraître anodin, ce qui pourrait être anecdotique. Le ton sur lequel il lui parle à certaines occasions, les regards en soirée, le jugement condescendant face à sa manière de s'amuser avec ses amis, le déménagement hors du quartier qu'elle fréquentait jusqu'ici. Amour toxique nous laisse le temps d'entrevoir le malaise, de percevoir que cette situation presque ordinaire est une relation toxique, que le climat que Fredo instaure au fil du temps relève bel et bien de la domination masculine et nous délivre les clés et les outils pour comprendre le mécanisme de l'emprise qu'il exerce sur Mani et la manière dont ça se traduit concrètement. L'amoncellement de détails, de scènes, de situations malveillantes, de phrases choquantes et d'événements problématiques suscite la prise de conscience, mettant le doigt sur des éléments qui sont en réalité hyper difficiles à identifier et même à décrire pour la personne concernée. On sait à quel point cette violence elle est insidieuse, quasiment invisible, qu'elle peut être presque impossible à déceler, encore plus à dénoncer. La BD, elle réussit à nous embarquer dans cette histoire de couple et à provoquer un sentiment d'évidence en nous. Pas de doute, la relation est toxique, Fredo est toxique et il n'est pas une exception, il est monsieur tout le monde. Encore une fois, les monstres, ça n'existe pas, la société les fabrique.
Comment est-ce que c'est possible que ça arrive? Qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive? C'est ça dont on parle. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on doit, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Soit dans les façons dont on va récupérer leurs plaintes, soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et puis porter le regard sur elles. La faute, c'est elles. Alors comment elle s'est habillée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a bu? Mais arrêtons!
Et c'est le sujet de la troisième BD dont je voulais vous parler aujourd'hui. Elle est sortie mi-septembre aux éditions Steinkiss et cette phrase d'Adèle Haenel, « Les monstres, ça n'existe pas », elle trône en quatrième de couverture. Cette BD, c'est celle de Mathieu Palin, illustrée par Valentin Maréchal, « Nos pères, nos frères, nos amis, dans la tête des hommes violents », adapté du livre de Mathieu Palin, journaliste qui avait signé la série radiophonique « Des hommes violents » diffusée sur France Culture début 2020. L'album reprend donc l'enquête qu'il a réalisée auprès d'hommes condamnés par la justice à participer à des stages autour des violences conjugales. Ici, on suit l'auteur dans son cheminement, dans ses questionnements d'homme, en fait, qui ne s'est jamais pensé et situé dans son privilège d'homme, ni dans son rapport aux femmes, et qui découvre l'ampleur d'une problématique mondiale grâce à MeToo. On le suit dans les rencontres qu'il fait. Avec Cécile, tout d'abord, cette auditrice de France Culture qui a écrit à la rédaction pour témoigner de son histoire personnelle. Avec Franck, Kader, Asdine et les autres participants du stage à Lyon. Avec Liliane Daligan, psychiatre qui a expertisé plus de 700 hommes violents. Et avec plein d'autres personnages qui forment un panel représentatif de la société dans laquelle nous vivons actuellement. Dans un climat de déni, de mauvaise foi, de confusion, mais aussi dans un climat de prise de conscience, d'information, de libération de la parole et de l'écoute. Et aussi dans un climat d'introspection, puisque comme je le disais, le journaliste entremêle son raisonnement et ses interrogations au vécu de ces hommes auteurs de violences conjugales, de ces femmes victimes, souvent non reconnues devant la police et la justice, des violences masculines donc, et de ces professionnels qui chacun, chacune à leur manière, à leur place et niveau, tentent de les accompagner dans l'analyse et la compréhension de ces actes qui traversent, bouleversent la société, détruisent des vies, gâchent des êtres en devenir, empêchent et entravent l'épanouissement et l'émancipation individuelle et collective. C'est une enquête illustré fidèle au livre éponyme qui nous permet d'accéder à la complexité du sujet parce qu'encore une fois, les monstres, ça n'existe pas. Alors face à l'ampleur des violences masculines, que faire? Que peut-on faire individuellement et collectivement pour anéantir le fléau et permettre aux générations futures de grandir dans une société émancipée des rapports de domination, dans une société où les femmes victimes ne craindraient plus d'être reconnues coupables, dans une société où les hommes auteurs de violences ne constitueraient plus une majorité qui se victimise, dans une société où on éduquerait les filles et les garçons à l'empathie, la bienveillance, l'entraide, la solidarité pour éradiquer les violences et les dominations. Bah, agissons, lisons ces BD si précieuses et essentiel à la compréhension du fonctionnement de notre société qui tolère et encourage les violences et en facilite, voire en garantit l'impunité pour les hommes. Prenons nos responsabilités et veillons les uns les unes sur les autres.
Merci Marine. Alors, sans tout dévoiler, voire rien dévoiler, j'avais envie de souligner que vous êtes un peu notre Mathieu Palin, ici à Rennes, chez les héroïnes. Peut-être qu'un jour, on en fera une émission de certains ateliers que vous pouvez réaliser, des ateliers qui sont pas évidents à faire auprès d'hommes qui, pour certains, ont un rapport à la violence faite aux femmes assez particulier. Peut-être que ça donnera, courant 2026, héroïne.
C'est possible, car en mi-octobre, on commence un nouveau projet à la prison des hommes de Vezin sur justement la création d'un podcast virilité autour des masculinités et de l'ampleur des dégâts que fait la virilité sur les hommes, les femmes et l'environnement.
Et voilà, j'avais pas envie de tout dévoiler, je ne savais pas ce que je pouvais dévoiler, vous l'avez fait, c'est super.
Je dévoile que Mathieu Palin sera un des intervenants
Mais vous êtes notre Mathieu Palin sur ce coup-là, donc il sera un des intervenants, génial. Donc effectivement, sans doute, pourquoi pas libérer ce podcast sur les ondes, en faire une émission. En tout cas, merci pour ces trois recommandations. Alors, puisqu'on a parlé bouquins, BD, moi je vais ajouter deux petites recos, plutôt donc sur des livres. Ce fut l'une de mes meilleures lectures de l'été dernier, Mao Drama, que jeunesse se passe. Je me suis régalée, c'est bien écrit, c'est prenant, c'est irrévérencieux, c'est drôle, jouissif, c'est parfois dramatique aussi. Lisez-le. Et puis, on parlait de féminicide en début d'émission, on a parlé de la virilité, de la masculinité toxique. Il y a un historien qui s'y intéresse depuis plusieurs années, c'est Yvan Jablonka, qui a fait paraître plusieurs livres où il s'interroge sur le patriarcat, sur le masculin, et un livre notamment sur son histoire à lui. Et là, il vient de sortir au seuil La culture du féminicide, où je ne vais pas en dire plus puisque je ne l'ai pas encore lu, mais je sais que cet historien s'intéresse au sujet et que son livre vient de sortir. Voilà. Allez, nouvelle pause musicale sur Canal B dans Les Héroïnes. On écoute Got Lost Again de Maëlle Tena.
Stay.
Got Lost Again de Maëlle Tena sur Canal B dans Les Héroïnes. On va terminer cette émission, Marine, avec le journal des bonnes nouvelles.
C'est
parce
bien.
Que, ouais,
ça fait
hein,
du bien.
Voilà, pour bien entamer, débuter le week-end. Puisque quand même, il se passe parfois des choses positives dans le monde et en France, concernant notamment les femmes. J'en veux pour preuve l'individualisation du taux de prélèvement de l'impôt pour les couples mariés ou pacsés. Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Eh bien, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Depuis le 1er septembre, c'est automatique. Chaque membre du foyer fiscal se voit appliquer un taux de prélèvement représentatif du niveau de ses revenus propres. C'est au prorata, en fait. On prend enfin en compte les revenus de chacun, chacune. Concrètement, je vous explique, j'ai trouvé un exemple clair sur le site impots.gouv. Vous avez vu jusqu'où va mon investigation?
Jusqu'à impots.gouv. Faut aller taper le site quand même.
Eh ben, ils ont mis un exemple hyper simple. Je vous le résume. Il faut imaginer Julia et Karim. C'est un couple sans enfants. Julia, elle gagne 1600 euros. Karim, il gagne 3500 euros par mois. Tous les deux. Le taux d'imposition du couple est de 5,8%. J'ai l'impression d'énoncer un devoir de maths.
Moi, j'ai l'impression aussi, je me concentre sur ce qu'elle dit.
Alors, donc voilà, le taux d'imposition du couple, il est à 5,8%. Je vous le dis comme ça, vous n'aurez pas à travailler dessus. Aujourd'hui, avec le taux individualisé, celui de Julia, il passe à 0,4%, soit 6 euros de prélèvement à la source par mois. Et celui de Karim passe à 8,3%, soit 290 euros de prélèvement mensuel. Alors bien sûr, en fait, le montant global de leur impôt, il ne va pas bouger, il ne bouge pas. Mais en fait, cette mesure, elle est juste plus équitable, plus juste. Elle permet une prise de conscience aussi des inégalités qui touchent les femmes. Karim va peut-être se rendre compte que partager les frais, le loyer, les courses, les factures, 50-50, bah en fait, c'est très inégalitaire. Voilà, par exemple, Karim et les autres vont peut-être s'apercevoir de ça. Et je trouvais que c'était pas si mal. Bon, maintenant, il faut s'attaquer aux pensions alimentaires. Hein, c'est le prochain combat. Alors, autre réjouissance, à Rennes, 4 femmes illustres ont désormais une rue à leur nom. Un couple, d'abord, celui formé par Claude Cahun, artiste plasticienne, écrivaine et photographe, qui s'est proclamé du genre neutre dès 1930. Et de sa compagne, donc, Marcel Moore. Elles étaient résistantes. Elles se sont battues contre les nazis à Jersey. C'était un couple. Alors, ce sont deux noms d'emprunt, hein, Claude Cahun et Marcel Moore. Mais en tout cas, voilà, ce couple a aujourd'hui une rue à son nom, à leur nom. Ensuite, nous avons Ursula Kay, je pense qu'il faut le prononcer à l'américaine, Ursula Kay Le Guin, autrice californienne dont les romans de science-fiction sont une référence mondiale en la matière. Et enfin, quatrième femme illustre, Anne Fakouri, professeure de lettres et autrice rennaise, prématurément décédée. Elle était notamment autrice de livres jeunesse. Sa spécialité, c'était entre autres le fantastique. Voilà, elle aura elle aussi une rue à son nom à Rennes. Et c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, moi, j'ai deux dates à vous donner importantes. Sortez vos agendas. Pareil, j'ai l'impression d'être en cours. Hein. Enfin, s'il vous plaît, sortez vos agendas. Vous notez samedi au samedi 27 septembre. Alors, c'est demain, en fait. Samedi 27 septembre, c'est demain. C'est au BAM, bâtiment à modeler, quartier Clonet à Rennes. Et le BAM accueille la 3e édition de Veille à ton droit pour le droit à l'avortement. C'est important, c'est hyper important. C'est organisé par le Planning Familial 35 et soutenu par la ville de Rennes. De 13h45 à minuit, le programme est riche et réjouissant, avec la fameuse grande kermesse du Planning Familial autour d'un vide dressing. Aussi d'ateliers créatifs et de stands militants. De 14h à 15h30, Laetitia Rebord du collectif Les Dévalideuses animera l'atelier Droit en santé sexuelle des personnes handicapées dans une société validiste. De 15h à 45 à 17h, vous pourrez assister à la table ronde Droit sexuel et reproductif et extrême droite. à suivre les résultats de l'étude du planning familial 35 sur l'accès à l'IVG en Ille-et-Vilaine, un medley de chorales féministes bretonnes, puis l'anniversaire du planning 35 qui fête cette année ses 60 ans. De 20h30 à 23h, place au drag show, puis le DJ set de Sugar Tantine. Les enfants sont les bienvenus, hein, c'est à l'inverse de tout ce qu'on a vu cet été. Là, les enfants sont les bienvenus, ils seront accueillis par le collectif La Bulle notamment. Et le prix est libre, je vous le rappelle, c'est demain, samedi 27 septembre, au BAM, bâtiment à modeler à Clenay. C'est organisé par le planning familial 35, c'est à partir de 13h45 jusqu'à minuit. Et le planning familial 35 fête donc ses 60 ans et à cette occasion, fin octobre, nous les recevons. Dans les héroïnes. Voilà. C'est dit. Hein, je crois que c'est autour du 23, 24. Deuxième date. Alors là, ça se passe à Paris, mais je tenais quand même à en parler parce que ça fait écho à ce que j'ai dit tout à l'heure sur ce que dénonce la Fondation des Femmes. C'est le concert solidaire pour défendre les droits des femmes qui est porté justement par la Fondation des Femmes. Nos voix pour toutes. Il aura lieu le 19 novembre prochain à l'Adidas Arena de Paris. Ça, j'ai un peu de mal à le dire, mais je suis bien obligée. Les bénéfices sont reversés aux associations qui viennent en aide aux femmes et qui manquent cruellement d'argent. Voilà, donc demain on est au BAM, hein, on l'a compris. Nous on va se retrouver le 10 octobre avec un collectif féministe qui s'appelle Vacarme, qui est tout nouveau et qui a plein de choses à nous raconter. On va se quitter en musique avec deux titres. Let Go de Maëlle Tena. Alors je ne sais pas ce que j'ai eu, j'ai doublé les titres des chanteuses. Voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Il sera suivi de I Love You de Fontaine D.C. Marine, qu'est-ce qu'on peut lire avant que je lance la musique ? Qu'est-ce qu'on peut lire dans YEG ?
On peut lire plein de choses.
Lesbophobie.
Bah ouais, on peut lire sur les masculinités, sur la lesbophobie. Et puis bientôt, on devrait mettre en ligne normalement une interview de Virginie Despentes qu'on avait fait à l'occasion de son passage à l'Antipode.
Génial. Et donc, c'est sur yagmag.fr. Merci, Marine. Vous souhaite un bon week-end. Rendez-vous demain au BAM pour défendre l'avortement avec le planning familial 35. Passez un bon week-end et on se retrouve le 10 octobre. Salut.
Salut.
Okay, and you don't know the pain. told you I do. It's all I've ever felt. I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've Eddie the Hag now from Dublin to Paris. And if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain.
Genocide and have got pride, I understand. I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was a clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had them flying me with drink. Even met with their demands. When the cherries lined up, I kept the spoilings for myself. Till I had 30 ways of dying. Looking at me from the shelf. Cloud padded smile I had. A real good shawl I was. But this island's run by sharks and children's bones stuck in their jaws. Now the morning's filled with cokies trying to talk you through it all. Is their mommy being a gale and is their daddy being a bar? And they say they love the land but they don't feel it goes to waste. Pull a mirror to their youth and they will only see their face. Make flowers read like broadsheets. Every young man wants to die. Say it to the man who profits and the bastard walks by. And the bastard walks by. And the bastard walks by. Say it to him 50 times and still the bastard won't cry. Will I lie? I love you, I love you, I told you I do. It's all I've ever felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tomb. System in our heads, you only had it before. Echo, 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 the lights they go, the lights they go, the lights they go. Echo, echo. Selling genocide and hardcore fight, I understand. I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was a clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had a boy and me with drink. Even met with their demands. And I loved you like a penny loves the pocket of a priest. And I love you till the grass around my gravestone is deceased. And I'm heading for the cookies. I will tell about it all. But the god of feel a gale and the veil of being a bar. Now the flowers read like broadsheets. Every young man wants to die. Say it to the man who profits and the bastard walks by. And the bastard walks by. And the bastard walks by. Say it to him 50 times and still the bastard won't cry. Will I lie?
Away.
I fall, I fall.
Les héroïnes, une heure avec des meufs sur Canal B.